parmi vous ce matin et j'ai à cœur de partager un texte qui est compliqué. Marc chapitre 9 verset 49. Je ne sais pas si vous avez forcément déjà étudié ce texte. Ah, volontiers, oui. Ah, super, oui, ça va bien. Oui, là, c'est parfait. Marc, chapitre 9, verset 49, « Car tout homme sera salé de feu. » Voilà, c'est un texte, évidemment, vous l'avez déjà lu en lisant le Nouveau Testament, mais je suis convaincu que vous y êtes passé dessus comme ça, et que peut-être que ce texte a éveillé votre attention, peut-être pas, mais en tout cas, c'est un des textes les plus difficiles de la Bible. Il est très difficile à cerner, ce texte. Parce qu'il est question de tout homme, alors la première question qu'on peut se poser, est-ce que ce texte s'adresse seulement à ceux qui vont en enfer, ou est-ce que ce texte s'adresse aux chrétiens? En fait, il s'adresse à qui? Hein? Aux chrétiens ou aux non-chrétiens? Si on repart à partir du texte original ou originel, le grec, eh bien le tout, c'est vraiment tous les hommes, hein? Donc d'emblée, on peut répondre à cette question en disant que ben, ce passage, il s'adresse à tous les hommes. Mais bon, maintenant, tout homme sera salé de feu. Donc là, dedans, on peut mettre les chrétiens et les non-chrétiens. Bon, on a déjà un bout de réponse. Hein. Tout homme sera salé de feu. Alors la première question qu'on peut se poser, à quoi sert le sel ? Évidemment qu'aujourd'hui, on sale comme ça un petit peu notre soupe pour lui donner un petit peu de goût. Mais il faut savoir qu'à l'époque où ce texte a été écrit, on n'avait pas de frigo et on avait notre viande et il fallait la saler. Vous savez que la viande, hors d'un frigo, en une journée, elle tourne. Donc pour pouvoir conserver la viande, on étendait du gros sel qui pompait le sang et une heure plus tard on enlevait ce sel et la viande était maintenant pure, prête à être cuite au feu. Mais on pouvait laisser le sel et ça conservait la viande. Voilà. Alors, finalement, on salait cette viande pour désinfecter et pour stopper la pourriture qui rapidement serait venue. Mais on utilisait le sel aussi pour désinfecter les plaies, et c'est encore ce qu'on fait aujourd'hui. Si vous vous écorchez la main en tendant votre gazon, eh bien vous allez mettre des solutions. On ne va pas mettre de sel, mais on met du désinfectant. Et dans ces désinfectants, je ne sais pas exactement ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, il y a des dérivés du sel, j'imagine. Je ne pourrais pas dire de bêtises, j'y connais pas grand-chose. Mais on utilisait à l'époque le sel pour désinfecter, à la fois pour préserver la viande, qui devait être cuite au four, mais aussi pour désinfecter des plaies lorsqu'on avait mal. Alors aujourd'hui, quand vous faites une plaie, vous mettez du désinfectant, ça brûle. Et là, on a un lien entre le feu qui brûle et le sel. Donc, en théologie, quelquefois, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin pour avoir les réponses. Mais quand il est dit que tout homme sera salé de feu, eh bien, le sel produit le feu. Vous avez une plaie, on met du sel dessus, vous ressentez que ça brûle, hein? C'est le feu. Donc, cette métaphore est finalement facile à comprendre. Dans la Bible, le sel, et le feu évoquent la purification, le nettoyage et la désinfection. Voilà. Mais là, moi, je reviens à ma première question. Pourquoi alors vouloir saler tous les hommes? On peut comprendre que Dieu veuille saler les chrétiens, hein? C'est normal. Là, on parle de sanctification. Et il est bon que Dieu sale les chrétiens. Finalement, on a une nature pécheresse qui doit être purifiée, qui doit être transformée, qui doit être sanctifiée. Un jour, on sera face à face à Dieu. Et puis, bien sûr qu'on est sauvé par grâce. Mais j'y reviendrai là-dessus, hein. Mais néanmoins, toute notre vie, ben, elle doit tendre vers une transformation de notre vie, vers une régénération, vers une sanctification. Alors là, on comprend que ce texte s'adresse finalement aux chrétiens. Mais tant mieux si Dieu sale notre vie. Partout où il y a de la pourriture, où il y a du péché, hein, partout ça s'infecte. Bon, on a le Seigneur qui vient avec sa salière pour désinfecter tout ça, alors ça brûle. Hein. Ben, tout ça, on peut le comprendre. Quand Dieu passe avec sa salière sur notre vie pour la purifier, ben, il le fera jusqu'à notre dernier souffle. Mais pour les non-chrétiens, ben Dieu les sale aussi. Mais peut-être pas tout de suite. Et là, je rejoins un texte qui dit, en Exode chapitre 34, verset 6, « L'Éternel passa devant lui », c'est l'épisode... Et l'Éternel, Dieu miséricordieux et lent à la colère, riche en bonté. Et là, ça s'adresse à tous les hommes, au fond, ce texte. Je ne vais pas le replacer dans le contexte, je n'ai pas le temps. Mais c'est à l'époque du veau d'or, le peuple pêche, etc. Et oui, il se pose plein de questions quant à la suite, la fiabilité de ce peuple qui est censé être le peuple de Dieu. L'Éternel est lent à la colère, mais ça ne veut pas dire que sa colère s'arrête. Et si on repart sur l'hébreu, on aurait mieux fait traduire par lent à la colère. C'est-à-dire que la colère de Dieu face au péché de quelque homme, qu'il soit chrétien ou pas, elle demeure, mais il est lent. Et Dieu est lent à la colère. Dieu se fâche quand un péché est commis. Parce que Dieu est juste et saint, et j'y reviendrai. Mais plutôt que d'administrer sa colère tout de suite, il attend. Et heureusement qu'il attend. On n'a pas un Dieu bonbon qui permettrait à tout un chacun de pécher à longueur de journée, puis simplement il efface, il pardonne, il efface, il pardonne. Bien sûr qu'il le fait. Mais heureusement qu'il est lent à la colère, parce que la Bible nous parle de jugement, de condamnation également. Elle nous parle d'un Dieu qui gracie sur la base du sacrifice de Jésus. On sait tout ça. Mais Dieu se met en colère quand un péché est accompli. Mais Dieu tarde à mettre sa colère à exécution pour permettre à l'homme de se repentir. Mais tout homme passera en jugement devant Dieu. Évidemment que les chrétiens, lorsqu'ils seront dans ce jugement, eh bien, Dieu dira, ben, ceux-là ont revêtu Christ. Ils ont reçu la justice de Christ. Ben voilà. Mais la colère de Dieu se manifestera face aux impies, mais elle ne se manifeste pas tout de suite. Parce que si Dieu tarde à manifester sa colère, c'est pour donner un temps aux impies de se tourner vers Dieu. Ben, on retrouve ce principe-là partout dans la Bible, avec Abraham, avec Lot, avec Adam aussi. Et puis avec Jonas, c'est peut-être le texte le plus fort. Dieu se fâche contre les Ninivites. Dieu dit que sa colère maintenant arrive à son terme et qu'il a jugé cette nation. Mais il leur donne encore un petit peu de temps. Il envoie Jonas qui va ailleurs. Mais enfin, le Seigneur est tout puissant pour le ramener sur la bonne voie par le ventre du poisson. Jonas, tant bien nonchalant, dit la sentence de Dieu. Et voilà que ces Ninivites se tournent vers Dieu, quoi. Et Dieu retire sa colère. Mais on le voit dans la Bible, hein, que Dieu ajourne sa colère, mais elle est là quand même. Donc je me dis, faisons quand même un peu attention, hein, de ne pas mettre Dieu en colère par notre péché aussi. Mais revenons à notre texte, tout homme sera salé de feu. Quand Dieu purifie ma vie, je dois accepter qu'il le fasse. Et c'est pour mon bien. J'ai envie d'échapper à sa colère. Mais sa colère, elle est là. Et si je pêche consciemment,
Et le péché, c'est quoi?
Alors bon, j'ai lu énormément de choses. Bon, certains disent c'est manquer le but, mais c'est quand même très vague. Hein.
Ben oui, j'ai lu un pavé énorme. Ben manquer le but.
Bon, on manque tous plein de buts. Mais je crois que dans la Bible, le péché est quand même quelque chose de beaucoup plus clair. Si ton œil est une occasion de chute, ben coupe-le. Tu peux pécher avec l'œil. Tu peux pécher avec la langue. La langue, elle peut soit bénir. Un frère, une sœur, une église, mais elle peut aussi maudire. Et là, ça s'adresse à des chrétiens, ces textes-là. Hein? Ta langue, tu l'utilises pour quoi? Est-ce que tu l'utilises pour bénir? Dans ce cas-là, ben, tu ne pèches pas. Mais si tu l'utilises pour maudire, ben, tu pèches. Alors, fais attention, parce que si tu pèches, tu attires la colère de Dieu sur toi. Dieu va être bon, il va ajourner sa colère, mais elle sera là. Mais tu as intérêt à te repentir avant que ça pète, on pourrait dire comme ça. Hein? Et puis d'autres choses, prenons le vin par exemple. Bon, alors évidemment, c'est un grand exemple, hein? Mais le vin est quelque chose d'excellent. Jésus lui-même a changé l'eau en vin aux noces de Cana. Mais ailleurs, la Bible dit que boire à outrance, c'est de la débauche. Et ça amène la colère de Dieu. Je doute qu'il y ait beaucoup parmi vous qui boivent à outrance. Ça peut être un problème pour certains. Et puis la sexualité, je prends des exemples comme ça. Les jeunes sont partis à l'école du dimanche maintenant, mais ça concerne plus les jeunes. Mais la sexualité est une très bonne chose, vécue dans le cadre du mariage, de ce que Dieu a donné. Mais la sexualité dont on parle aujourd'hui dans les médias, c'est une horreur pour le Seigneur, c'est de la débauche, c'est un péché grave. Donc on peut dire que le péché, on pourrait le résumer comme ça, hein, de façon très concrète, ce sont des choses qui souvent, au départ, sont excellentes. Hein. Je pense à la langue, je pense au vin, je pense à la sexualité, je pense à tant d'autres choses dans la Bible, mais qui ont mal tourné par la suite. Mais le péché attire la colère de Dieu. Un Dieu en colère, c'est malin qui a composé. On a des chants beaucoup plus anciens qui nous parlent, mais attention, la manière dont tu vis, la colère de Dieu, c'est un élément qui existe. Mais on l'a effacé de notre théologie ces dernières années. On l'a effacé, je dirais, pour un Dieu qui est bon, qui pardonne tout, qui efface à longueur de journée, qui fait grâce. Alors c'est vrai, mais pour autant que l'homme se repente. Et quelquefois, ben, on tolère des choses dans nos vies, au prétexte qu'on a un Dieu de grâce qui pardonne 77 fois à longueur de journée. Mais on oublie cette notion d'un Dieu qui peut être en colère, qui ajourne sa colère parce qu'il est bon, mais il n'ajourne pas gratuitement. Il l'ajourne pour nous donner un temps de réflexion, pour qu'on prenne conscience des choses et pour qu'on règle les choses avec lui. Mais pourquoi? Pourquoi tout ça? Mais parce que Dieu est saint. Et, je dirais, mais est-ce qu'on parle encore vraiment de la sainteté de Dieu? Ben, pas tellement. Hein. Mais je me souviens qu'à 35 ans, alors ça ne me rajeunit pas, hein, mais j'ai commencé mon collège biblique à 20 ans, à Kolding au Danemark, donc vous saurez mon âge aujourd'hui. Eh bien, moi j'ai été saisi vraiment par ces cours de dogmatique qu'on avait avec nos professeurs, et qui nous parlait de la sainteté de Dieu. Mais ça m'a passionné. Moi, j'ai trouvé ça extraordinaire qu'un Dieu saint, qui n'a aucun péché en lui, et qui prenne attention à moi, qui suis qu'un pauvre misérable. Mais je me souviens qu'on avait ces cours de dogmatique. Vous savez, au Danemark, la nuit vient très vite l'hiver. Il neigeait, on a eu 3 mois de neige. À 3 heures de l'après-midi, il fait nuit, on est dans ses cours, on se croirait dans une réunion de prière. On demandait à nos professeurs, et c'était un peu ardu quand même, hein, c'était de la théologie.
Mais s'il vous plaît, après ce cours sur la sainteté de Dieu, est-ce qu'on peut encore prendre un quart d'heure et prier? Ou en terminer nos cours en priant, mais Seigneur, ta sainteté, touche mon cœur, rends-moi pur, transforme ma vie, purifie mes péchés. Et après, on allait souper. La sainteté de Dieu. Mais où est-ce qu'on en parle encore aujourd'hui de cette sainteté de Dieu? Est-ce que Dieu... est-ce que les exigences ne seraient plus là? La sainteté de Dieu. Vous savez que Dieu est saint. La Bible en parle. Mais pourquoi alors le péché est-il grave aux yeux de Dieu? Tant le péché qu'un chrétien peut faire, ou le péché qu'un non-chrétien peut faire. Le péché est grave aux yeux de Dieu parce que Dieu est saint. Encore une fois, la réponse, il n'y en a pas besoin d'aller la chercher très loin. Le péché est grave parce qu'il porte atteinte à la nature même de Dieu qui est saint. Il est pur. Et pécher, c'est blesser le Seigneur, c'est enfreindre sa loi, qui est l'expression de sa sainteté. Quand Dieu donne sa loi dans la Bible, eh bien, elle émane d'un Dieu qui est saint, donc sa loi est saine, on va dire. On est sous la grâce, donc on n'a plus besoin de l'accomplir. Et pourtant, la loi fait partie de l'expression même de la sainteté de Dieu. Vous savez, au ciel, on sera rendu capable d'accomplir cette loi à 100%. Et Jésus-Christ lui-même, sur terre, a complètement accompli la loi de Dieu. Il n'y a pas une loi que Dieu donne, puis après, elle ne vaut plus. Hein? Dieu ne dit pas « tu ne tueras pas », puis après, finalement, c'est possible. Dieu ne dit pas « tu ne commettras pas d'adultère », puis après, finalement, c'est possible. Dieu ne dit pas « tu ne parjureras pas », puis après c'est possible. C'est possible de le faire, puis on a un Dieu qui efface tout à longueur de journée. Ce que Dieu a donné comme loi, elle reste comme un critère qui est valable pour l'éternité. Mais évidemment, on n'est pas capable de la vivre. Mais Dieu, par la nouvelle nature qu'il nous donnera pour l'éternité, nous rendra capable de la vivre. Mais chaque fois qu'on enfreint cette loi, on pêche et on blesse Dieu qui a donné sa loi. Mais je vais utiliser une image, vous allez comprendre. En tout cas, ceux qui sont pères vont comprendre, ou mères vont comprendre. Quand vos enfants pêchent, comment vous le ressentez? Si votre adolescent arrive ivre à la maison, un soir, un samedi, il y a eu une fête, et puis voilà, un petit peu exagéré sur la bouteille. Alors vous allez vous dire deux choses. C'est vraiment blessant. Ça me blesse. Vous n'allez pas dire bouf. Là, vous allez ressentir ce que Dieu ressent, lui, quand un de ses enfants qui a reçu l'esprit pêche, quand votre propre enfant pêche. Ou si votre conjoint vous trompe, mais les dégâts que ça va faire chez vous. Hein? Je donne ces exemples pour que vous compreniez que quand une personne pêche, son entourage est affecté. Même des péchés qui sont faits en silence. J'ai suivi un couple qui a malheureusement divorcé dans notre église à Colombier. Lui a trompé sa femme durant des années. Sa femme n'était pas censée le savoir parce que c'était tellement bien caché. Mais elle le savait. Et elle le savait parce que elle le savait sans le voir, sans rien. On sait, j'entends, quand un péché est commis, même que c'est fait dans la complète discrétion, en dehors des caméras et en dehors de tout, ça affecte l'entourage. Et l'entourage ne le sait, enfin, ils ne le savent pas, mais ça perturbe, ça met un mur, ça crée quelque chose de faux. Alors évidemment, Dieu, lui, voit tout, il sait tout. Alors voilà pourquoi le péché est à ce point grave, c'est qu'il offense Dieu. quelque part, ça je crois que c'est la chose la plus importante à dire. Ensuite, il détruit nos relations. Ensuite, il nous avilit nous-mêmes. Et nous qui avons été créés à l'image de Dieu, quand je pêche, je détruis l'image de Dieu en moi. Alors, maintenant on va revenir quand même à notre texte. On va revenir à notre texte. Tout homme sera salé de feu. Quelle heure il est? Il est 11h, bientôt on va un petit peu terminer. Alors, si Dieu est saint, eh bien, il ne tolère pas le péché. Mais un temps, oui, maintenant, il le tolère. Il y a des péchés qui se font partout. Mais viendra un moment où la patience de Dieu sera à terme. Et Dieu le sait très bien, parce que Dieu sait le présent, le passé, mais l'avenir. Tous les détails qui concernent l'avenir, Dieu n'est pas pris au dépourvu. C'est, comme le disait Calvin, on a parlé de lui ce matin, c'est le patron du navire, c'est lui qui conduit les choses, c'est lui qui mène les éléments là où il le veut. Mais il y a un texte dans Ésaïe que je dois retrouver. Où est-il ? Dans Ésaïe au chapitre 65, verset 25, il est dit que à un moment donné, le péché ne se commettra plus. Le péché ne se commettra plus. Alors, je vais un peu aller vite, parce qu'on n'est pas dans un cours de théologie où on peut disséquer tous les mots. Ça, c'est un texte qu'on a étudié dans le cadre d'Évangile 21 à Genève, avec Henri Blocher, et ça m'a absolument passionné. Alors, le péché ne se commettra plus. Si Dieu est saint et qu'il ne tolère pas le péché, est-ce que Dieu va passer l'éternité, en étant constamment en colère face à des péchés qui se pratiquent quelque part? Réfléchissez à ça. Dieu a la possibilité de faire en sorte qu'à un moment donné, il n'y ait plus aucun péché qui ne se pratique. Et nos gamins, moi je suis père, et puis il y a des attitudes chez mes enfants que j'aime bien, il y a des attitudes que je n'aime pas. Alors je les reprends avec ma femme sur les attitudes que je n'aime pas, et à force d'insister, pourtant je suis très limité, bon, on arrive à faire un certain nombre de corrections. Après, ben, on ne peut plus les faire, ces corrections. Mais ils entrent dans la vie, puis ils s'en ramassent plein les dents, et puis ils doivent changer par eux-mêmes, j'entends aussi. Si Dieu dit dans sa parole qu'à un moment donné, parce qu'il est saint et qu'il ne tolère pas le péché, ben il est en droit d'exiger que plus aucun péché ne se pratique plus nulle part. Si Dieu est souverain sur chaque être humain, puisque il faut quand même faire une différence entre un Dieu créateur, un créé qui existe de toute éternité, et une créature, qu'elle soit chrétienne ou pas, qui a été créée à un moment donné, Dieu reste souverain sur toutes les créatures qu'il a faites, c'est-à-dire à partir du premier homme jusqu'au dernier qui aura son souffle. L'homme ne peut pas se positionner à l'égal de Dieu, même au prétexte du libre arbitre. On parle du libre arbitre, l'homme. Et on a une théologie tellement humaniste depuis quelques années où l'homme est au centre et on ne sait plus trop où est Dieu. On doit revenir à une théologie biblique où on a Dieu au centre et où l'homme, Dieu, mais ne serait-ce que par rapport à la théologie d'un Dieu qui est incréé et d'une créature qui est soumise à son créateur et dont Dieu limite le libre arbitre. Parce qu'il l'a décidé ainsi, parce qu'il est souverain sur chaque créature qu'il a faite, lui. Autrement, c'est Frankenstein qui crée quelque chose qui le dépasse, dont il n'est plus maître. C'est ses films où on voit que des humains créent des robots, puis ces robots prennent le pas sur l'humanité. Mais ce n'est pas le cas avec Dieu. chaque être humain reste complètement sous la souveraineté de Dieu, qui dispose de chaque être humain comme il le décide.
On peut quand même lui laisser ça à Dieu en tant que créateur, et nous en tant que créatures, tellement vite malades.
La Bible dit, l'homme, ses jours, c'est comme la feuille au vent, hein? Très poétique. Mais ça passe, ça vient, c'est pas très solide. Mais on a un Dieu qui demeure d'éternité en éternité.
Donc on peut laisser toute suprématie à Dieu, puis remettre l'homme dans, on va dire, dans sa position d'être créé avec plein de limites. Or, si Dieu dit qu'il ne tolère pas le péché parce que ça le met en colère et qu'à un moment donné, plus aucun péché ne se... plus aucun péché ne se fera, la Bible nous dit, ni sur la terre, et je reprends Ésaïe qu'on n'a pas le temps d'étudier, ni sur la terre, ni sous la terre, et ni en enfer. Et ça, pour moi, ça a été presque nouveau. Parce qu'on peut... c'est quoi l'enfer? Alors, est-ce que des péchés se commettront en enfer? Mais d'après la Bible, non. Mais si aucun péché ne se commettra, la Bible est claire. Ni sur terre, ni sous terre, ni en enfer, ni nulle part. C'est parce que Dieu ne tolère pas le péché. Si Dieu ne tolère pas le péché, si Dieu dit maintenant, j'en ai marre des péchés, je ne les supporte pas, plus aucun péché ne se commettra, il ne va pas laisser un endroit où le péché est commis à longueur de journée. Mais vous savez, c'est une notion importante. Vous vous souvenez de ce chant-là, on ira tous au paradis une trentaine d'années. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière un chant comme celui-là? Puis on en entend d'autres, hein, de Paul Naref. Sous-entendu, mais écoutez, le vrai paradis, c'est l'enfer. En enfer, on peut boire comme des trous, on peut aller avec toutes les femmes, on peut fumer des joints, on peut vivre dans la débauche. Avec cette mentalité, certains préfèrent aller en enfer pour assouvir leur passion durant l'éternité en entière. On va dire que pour certaines personnes, l'enfer, c'est le paradis. Mais si Dieu ne tolère pas ces choses-là, il ne va pas laisser un endroit où ça se pratique. Ça, c'est Dieu. C'est Dieu qui a le pouvoir à la fois de libérer les élus au ciel pour l'éternité en leur donnant une nouvelle identité en Christ, qui ne pécheront plus. Et pour ceux qui sont en enfer, alors comment est-ce que Dieu s'y prendra pour qu'ils ne pêchent plus, s'ils ne tolèrent pas le péché? D'une part, pour Satan, la Bible est claire. Il est jeté dans l'étang de feu en étant ligoté avec des chaînes. Donc je ne sais pas trop comment il peut pêcher en étant ligoté avec des chaînes. C'est une image. Mais qui nous montre qu'en enfer, Dieu a pouvoir sur l'ennemi, et qu'il le ligote avec des chaînes de fer, et que cet ennemi en enfer, il ne peut plus rien faire. Mais pour ceux qui sont en enfer, parce que la Bible nous parle, ils seront salés par le feu. Mais ils ne seront pas sanctifiés. Et là, c'est vraiment la grande différence. Et la Bible parle du châtiment. Le châtiment, il arrive. Mais c'est pas un mal par le mal. Mais si Dieu décide pour qu'un péché ne se fait, pour les chrétiens, c'est par la sanctification et par la nouvelle vie en Christ, par que Christ en nous, cette nouvelle nature. Et pour ceux qui ne veulent pas la sanctification et qui ne veulent pas la nouvelle nature du Christ en eux, ça sera quoi qui fera qu'ils ne pécheront plus? Ça sera le sel, mais symbolisé par le châtiment de Dieu. Et ce châtiment s'abattra, alors c'est un peu dur, je sais bien, mais régulièrement sur chaque personne qui péchera en enfer. Ça veut dire, en fait, ça sera presque pas possible de pécher. Parce que Dieu sera tellement présent sur ces gens, et les tiendront de façon tellement forte, que
fait péché, c'est... il n'y aura plus la notion de ce Dieu long qui tarde. Ça veut dire qu'une personne qui voudra pécher, ne serait-ce que dans ses pensées, le châtiment de Dieu interviendra sur elle, avant même qu'elle ne pêche. Et elle ne pourra plus, pas parce qu'elle aura plus envie de pécher. L'envie de pécher sera toujours là, mais la possibilité ne sera plus là. Et ainsi, les exigences de sainteté de Dieu seront accomplies. Mais quand même, on va lire très brièvement, puis je vais finir par ça. Luc 16, 23-24, est-ce que c'est un endroit forcément amusant à vivre? Non, pas du tout. Parce qu'on doit enlever ce cliché de l'enfer qui est peut-être pas si mal parce qu'on peut assouvir ses passions là-haut. Il faut quand même voir ce que la Bible dit de ça. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissions le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare de la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. C'est un lieu de tourment parce que la gloire du Christ n'y rayonne pas. Mais la puissance du Christ s'y manifeste pour châtier ceux et celles qui auraient envie de pécher avant même qu'ils ne le fassent. Et qu'est-ce que la Bible nous dit du ciel? Qu'un banquet est préparé avec des mets succulents, que la gloire du Christ y rayonne, que la gloire du Christ s'y manifeste à travers ses enfants, que Christ lui-même, il n'y a plus besoin de lampe là-haut, mais Christ lui-même éclaire tout en tous. Bon, franchement, on va terminer ici. J'ai prêché ce message dans beaucoup d'églises et chaque fois je dis, mais je m'excuse de devoir parler de ces choses-là, mais c'est quand même un texte qu'on doit aborder. Mais j'aimerais que vous puissiez retenir, et je le dis à chaque fois, j'ai prêché la même chose à Reconvier dans une grande église dimanche passé. Mais on doit faire un peu attention à notre vie quand même. On doit rechercher la sanctification. Et quelquefois, on laisse des choses comme ça grandir. Et je le dis pour moi, j'ai pas envie de faire la moralité à personne. Mais j'aimerais quand même pas arriver au ciel, puis le Seigneur me dit, bon, tu es sauvé par grâce, mais quand même, voir ici, il y a quand même ces petites choses que tu as laissées dans ta vie. Et là, franchement, tu sais que je suis un Dieu saint, tu sais que je ne tolère pas le péché, tu sais qu'à un moment, l'histoire du péché sera complètement résolue et que plus aucun péché ne se commettra. Tu sais la notion de ma colère face aux péchés qui sont pratiqués. Et toi, mais ce que tu as pu laisser dans ta vie, et ça me travaille beaucoup. Et je repense à ces cours de dogmatique où on parlait de la sainteté de Dieu. Mais c'est très difficile à le décrire. Mais quand on entendait ça, on n'avait qu'une seule envie, c'est de chercher à conformer complètement notre vie à ce Dieu saint. Alors moi, je vous encourage à prendre ces textes au sérieux. Tout homme sera salé de feu. Pour certains, ça sera dans la géhenne, où il sera sous la pluie du sel du Seigneur, constamment, et sous le châtiment pour qu'ils ne pêchent plus, mais ils auront soif. Christ n'y rayonnera pas dans sa gloire. Et ils ne pourront plus en ressortir, la Bible est claire. Et pour les chrétiens, bien sûr, on sera revêtu de Christ, on ne péchera plus, on sera dans la gloire éternelle. Vous savez, j'ai dit, j'ai 55 ans. Le compte à rebours a commencé, franchement. Bon, les plus âgés me diront, mais t'es encore un jeune, toi. Ouais, mais t'en passes vite. Dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, demain je peux être repris. Demain je peux comparaître auprès du Seigneur. Et qu'est-ce que Dieu me demandera? Vous savez, l'autre matin, ça je terminerai par ça. Ces temps, je l'ai dit aux frères, il y a pas mal à faire dans toutes les églises quand on est pasteur, novembre, fin novembre, décembre, il y a pas mal. Et je me lève à 6 heures, je dis à ma femme, j'arrive plus à dormir, j'ai des lettres à faire, des mails, je vais commencer. Puis elle me dit, mais Charles, c'est pas ça que Dieu te demande. Alors je sais pas si elle était bien endormie, puis que c'était dans son sommeil qu'elle m'a dit ces choses-là. Mais ça m'a travaillé toute la journée, puis le soir je lui ai dit, tu as raison ce que tu m'as dit ce matin. Elle me dit, Charles, mais reste encore une heure au lit. Et ce n'est pas ton activisme que Dieu demande. Mais bon, il faut quand même que je fasse les choses. Oui, mais tu les feras. Mais ce n'est pas ce que Dieu te demande en premier. Ce que Dieu demande de toi, c'est un cœur pur. Et ça m'a travaillé toute la journée. J'ai fait mes lettres, j'ai fait mes téléphones, j'ai fait mes mails. Je suis allé à la réunion le soir, je suis rentré à la maison. Et je lui ai dit, mais écoute ce que tu m'as dit ce matin. Bon, en fait, tu avais raison. Ce que Dieu demande de moi, ce n'est pas que je remplisse mon agenda à la minute près pour faire plus pour lui. Ce que Dieu demande de moi, c'est un cœur pur. Et en revenant de la réunion le soir, j'étais dans la voiture. Un cœur pur, Seigneur, où est-ce qu'il faut que ton sel descende dans ma vie là? Ben, je peux vous dire que la liste était un peu longue, hein. Une mauvaise pensée par un tel qui n'est pas venu à la répétition. Ce n'est pas des choses graves. Une parole un peu dure sur une sœur parce que ceci, parce que cela. Bon, que Dieu vous bénisse. Hein. Seigneur, ce que tu demandes de nous, c'est un cœur pur. Et tu nous donnes les moyens, Seigneur. Merci pour ton sel qui est ta parole, qui nous transforme par l'aide de ton Saint-Esprit. Et moi-même, Seigneur, je me place avec mes frères et sœurs ici présents. J'ai besoin de ta transformation dans ma vie, Seigneur. Merci pour ta sainteté commun, Dieu aussi saint que toi, complètement à 100% saint, peut-il s'intéresser à des êtres vils, pécheurs comme moi? Je ne le sais pas. Or, Seigneur, je viens devant toi, nous venons devant toi ce matin. Nous prions pour que tu purifies nos vies. Nous prions pour que toutes ces petites choses cachées soient nettoyées par toi. Seigneur, ce que tu demandes, c'est un cœur pur. Purifie nos cœurs. Amen.